bonjour à ceux que j'ai pas vus. On revient d'un camp pour personnes âgées, les aînés de la paroisse de la rive droite. On a fait un camp. Et Frédéric a fait un camp, alors qu'il aime pas les camps. Hein. On a fait un camp. On était, je crois, 17 ou 18. Et on apportait le message sur l'épître à Philippiens. C'est l'épître de la joie. Et c'est le sous-titre qu'il avait mis, c'était « Centré sur Christ ». Donc c'était un beau programme. Et quand on s'est bien préparé, on a essayé de bien se préparer. Et puis quand on priait, on avait vraiment demandé à Dieu qu'on puisse nous aussi être encouragés. Pas seulement apporter, mais qu'on puisse recevoir, que ça aille dans les deux sens. Et comme on est invité à entendre des histoires inspirantes, j'aimerais vous parler de trois femmes, pardon aux hommes, hein. Les hommes étaient bien aussi, mais trois femmes qui m'ont vraiment inspirée, qui m'ont encouragée. Donc on était dans les plus jeunes, hein. Pas tout à fait, mais la première femme, elle a mon âge, c'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles. J'aime l'entendre parler de la maison qui est à côté de chez elle. Elle habite un immeuble, elle a un petit appartement. Et la maison à côté de chez elle, c'est la maison qu'ils ont construite avec son mari quand ils étaient riches, quand les affaires marchaient bien. Et puis ils ont fait faillite. Puis je lui demande, mais c'est pas trop dur? Elle dit, franchement, oui. Quand ils sont dans la piscine, et puis que nous, là, ça fait un petit pincement, mais il y a un temps pour tout. Et vraiment, quelqu'un qui raconte ça, sans se plaindre, avec joie, avec humour, avec... Puis on sent qu'elle l'a vécu, quoi. Elle sait, ça n'a pas été facile. Elle vient de perdre son mari il y a une année, dans des souffrances atroces. Elle en parle, mais elle en parle avec... La présence de Dieu était tellement là qu'elle en parle avec joie. Mais elle m'a montré les photos, puis au bout d'un moment, elle m'a dit « Non, mais je ne peux pas aller plus loin, c'est douloureux. » Donc, une personne qui vit aussi bien les difficultés que la présence de Dieu, la joie de Dieu en parallèle. Waouh, ça fait du bien. La deuxième personne, elle est un peu plus âgée, elle a 85 ans. Elle marche avec une canne, elle a des problèmes d'estomac, elle est faible. Mais elle a servi Dieu toute sa vie, elle a été missionnaire, ensuite diacre, ensuite... Puis elle a 85 ans, puis elle rayonne de l'amour de Dieu. Elle va de l'avant. Elle dit bien, je fais attention maintenant, je suis vieille. Donc, j'essaye de mettre un peu de distance avec ceux qui me découragent. Il y en a qui se plaignent tout le temps. Ben maintenant, j'ai un peu de peine. Mais je les vois quand même, mais moins souvent. Parce que la vie est dure. Mais elle se réjouit et elle fait du bien. La troisième personne, elle a 94 ans et bientôt 95. Elle a des rhumatismes aux mains, elle a des rhumatismes aux pieds, elle a mal un peu partout, mais elle dit, mais je fais mon ménage, je fais tout, elle va de l'avant, et elle rayonne. Elle m'avait frappée, bon, c'est la quatrième fois qu'on fait cette semaine, et les deux dernières fois, elle n'est pas venue, et quand j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui portait son prénom, je me suis dit, oh, est-ce que c'est elle? Je ne me souvenais plus de son... Parce qu'elle m'avait tellement fait bien. Mais de savoir qu'à 94 ans, on peut encore être comme ça. Et elle, sa prière, tous les matins, elle demande au Seigneur, « Écoute, Seigneur, moi, ce que je te demande, c'est que chaque jour, sans exception, je puisse rencontrer quelqu'un auquel je puisse parler de toi et lui dire combien tu es bon, combien je t'aime, combien tu aimes les gens. Puis elle nous raconte ça, puis elle nous dit, ben aujourd'hui, c'est vous. Ben oui, oui, c'était nous. Puis si je meurs demain, ben c'était vous la dernière fois, mais jusqu'au bout. Et je trouve ça tellement encourageant. Alors, on a quand même donné un enseignement. Alors moi, j'y étais avec des médicaments. Les paroles de Dieu sont des médicaments à lire ou réciter matin, midi et soir. Et le médicament du dernier jour, c'en est un dont j'ai besoin, moi. Et je me suis rendu compte qu'en préparant, j'en ai besoin matin, midi et soir. Et je me disais, mais elles sont un exemple de ça. Elles sont encourageantes pour moi. Alors je vous le lis. J'ai appris à être satisfait de ma situation. Quoi qu'il arrive, j'ai appris à être satisfait de ma situation. Et dans l'Épître à Philippiens, il est dit, sans contestation, ni sans se plaindre, sans grognement, sans murmure, j'ai appris à être satisfait dans la situation dans laquelle je trouve. Et puis un verset que je n'ai pas donné comme médicament, mais qui va avec, hein, je puis toute chose en celui qui me fortifie. Et je trouvais que ces femmes, elles étaient une démonstration de ce verset. Elles ont appris à être satisfaite dans les situations où elles se trouvent parce qu'elles vivent avec la force que Dieu leur donne. J'aimerais prier. Seigneur, moi ce qui m'a encouragée, c'est que je me rends compte que c'est possible jusqu'au bout, même à 94 ans, c'est encore possible. Mais ça s'apprend. Et c'est vrai que je me suis rendu compte dimanche dernier, j'avais l'école du dimanche, c'est quelque chose que, d'ailleurs je leur ai donné ce verset, c'est quelque chose qu'on apprend tout petit. Mais si on ne l'a pas appris, on peut encore l'apprendre aujourd'hui. Seigneur, apprends-nous à marcher avec la force que tu nous donnes, qui se renouvelle chaque jour. Et un fruit de l'esprit, c'est la joie. Alors, ranime la joie en nous. On ne veut pas se faire voler ce que tu nous as donné. Alors, s'il te plaît, ranime la joie en nous. Et fais-nous la grâce de nous encourager les uns et les autres à marcher dans cet amour pour Jésus. Et cette joie de t'appartenir. Amen.
Ah, moi, je veux aussi ma bénédiction.
Seigneur, c'est vrai, acceptez toute situation. Seigneur, moi je te remercie de pouvoir bénir Frédéric et de pouvoir le bénir en ton nom. Et Seigneur, je vois le titre, c'est libre. Eh bien Seigneur, que ce qu'il va donner soit donné avec liberté et nous aide à vivre dans la liberté que tu as prévue pour les enfants de Dieu. Et nous sommes tes enfants. Mais Seigneur, bénis mon mari. Tu l'aimes et je l'aime. Amen. Amen.
Je repense à ces trois personnes dont Suzy a parlé. Qu'est-ce qui différencie pour moi ces trois personnes, il y en a peut-être d'autres, mais que du commun des mortels? Elles ont deux caractéristiques. Alors, Suzy a parlé de la joie. Elles ont deux caractéristiques. Elles sont positives, mais elles ont une autre caractéristique, je dirais, elles sont humbles. Ce n'est pas des personnes qui sont des super spirituels, qui ont des grands discours. Elles sont vraiment... Elles sont simples. Elles vont simplement donner les choses. Et ça parle beaucoup. Cette espèce de simplicité, de naturel. On sent que c'est vraiment... Ça sort du cœur. Aucune ne cherche à faire un effet. Puis l'autre chose qu'elles ont, les trois, je trouve, elles sont drôles. Elles ont de l'humour. Et ça aussi, ça aide sérieusement. Et je pense que la joie du Seigneur, elle peut se manifester par certaines formes d'humour. C'est positif. En tout cas, ça détend l'atmosphère et ça rend très agréable d'être avec ces personnes. Donc on a fait l'épître aux Philippiens. J'avais envie, je m'étais dit, j'avais pas le temps pour ce dimanche de préparer autre chose que l'épître aux Philippiens. Je suis dedans, je me suis dit, mais comment je vais transmettre à nous tous ici quelque chose de cet épître aux Philippiens? On a fait 5 rencontres d'une heure, c'est long, hein. Mais il y a un verset qui m'a frappé en préparant ça, et j'y repensais hier soir, ça m'a encore plus frappé, parce que je l'avais jamais compris comme ça. C'est dans chapitre 3, le verset 12 à 14. Paul y dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi, de moi aussi, Jésus-Christ est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je lisais les premiers versets, pas que je vais en parler, mais je trouve qu'elles illustrent bien ces femmes. Elles ne sont pas arrivées au bout, mais elles courent, elles avancent, et c'est cette dynamique qui est encourageante. Mais que fait Paul? Il n'est pas arrivé, mais il fait une chose. Il oublie ce qui est derrière, il se porte vers ce qui est devant. Il court vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, quand on entend ce verset, pour moi en tout cas, et pour Suzy aussi je crois, la première chose qu'on se dit, il ne faut pas regarder au passé, à tout ce qu'on a vécu de difficile, ou même à nos succès, ce n'est pas ça qui est important, allons de l'avant. Pour moi c'était le sens premier de ce passage. Et puis je me suis rendu compte, non, c'est plus vaste que ça. Qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière? Eh bien, si on regarde, qu'est-ce que Paul ici voit comme devant? Il court vers un but, vers le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le devant, ce n'est pas demain. Le devant, c'est le but, c'est l'appel de Dieu, c'est ce qu'il veut dans nos vies. Ça va beaucoup plus loin que simplement, demain, je ne dois pas m'appuyer sur le passé pour vivre demain, mais non. Ça va plus loin. Demain, lundi, ben, dans un certain sens, c'est encore derrière. Parce que ce qui est devant, c'est quelque chose de plus vaste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ce qui est derrière, c'est-à-dire avec ce qui est aujourd'hui, avec notre vie actuelle? Eh bien, il dit, oubliez les choses qui sont derrière. Je ne peux pas oublier, de toute façon, ce que j'ai vécu. Et puis, si ça va, comme je le dis, aussi, c'est simplement maintenant, je ne peux pas oublier ce qui va venir demain. Ça fait partie d'un tout. Qu'est-ce que ça veut dire, oublier? En fait, si on regarde un peu plus précisément le sens du mot qui est employé dans le texte, ça veut dire finalement négliger ou ne pas se soucier. Oublier les choses qui sont derrière, c'est ne pas se soucier, c'est ne pas mettre du poids sur ces choses qui sont derrière, sur ces choses de la vie d'aujourd'hui. Et puis alors, il dit, oubliant ce qui est derrière, me portant vers ce qui est devant. Qu'est-ce que ça veut dire, me porter vers ce qui est devant? Me porter vers le futur, ça veut dire tendre, ça veut dire aller vers. Une bonne traduction, il me semble, c'est se focaliser, mettre sa priorité, voyez, sur ce qui est futur, sur ce qui est de Dieu, sur ce qui est parti de son plan. Et, si vous voulez, la tension entre les deux, c'est pas tellement entre le passé et le futur, c'est entre ce qui est du présent, de la vie courante, de ce que nous sommes, et puis un objectif plus lointain. Le prix, le but, le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Qu'est-ce qui est important vraiment? Ça reste très abstrait, mais Paul, j'ai trouvé en préparant cet épître, il est fin. Il sait que c'est difficile, il sait qu'on a besoin de secours. Les Philippiens, c'est une église où ça marche bien, il n'y a pas de problème très particulier. Mais persévérer, aller jusqu'au bout, ben, ça reste difficile, même quand les choses semblent, à première vue, vont bien. Et puis, à Philippe, ce n'est pas si bien que ça. Il nous est dit dans l'épître aux Corinthiens qu'ils sont dans une profonde pauvreté. Quand Paul a été à Philippe, ben, il a fini en prison. Ce n'est pas si facile que ça. Et Paul, il a envie qu'on persévère, qu'il persévère. Alors, dans les trois chapitres 1, 2 et 3, il parle de trois difficultés. Chapitre 1, c'est les difficultés de la vie, les problèmes qu'on rencontre. Le chapitre 2, il parle de notre nature humaine égocentrique, qui est le plus gros obstacle probablement à progresser. Et puis, dans le chapitre 3, il parle de notre incompréhension de Dieu. Alors, je ne vais pas vous refaire nos réflexions, mais j'aimerais juste, dans ces trois thèmes, insister sur le fait que, oubliant les choses qui sont derrière, les choses là, et puis tendant à celles qui sont devant. Alors, premièrement, les difficultés. Je vous lis les versets 12 à 18 du premier chapitre. « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et il est en prison et il est menacé de mort. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour une mauvaise raison, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. » Ce qui frappe quand même, c'est que, franchement, la situation de Paul, elle est douloureuse. Prison, menace de mort. Mais les gens qu'on aime, les gens qui font le même travail que nous, les gens avec lesquels on aimerait être en communion, c'est plus que des frères et sœurs, c'est des collaborateurs. Ben, ils travaillent, pas pour l'objectif, mais pour lui faire du mal. C'est quand même une sérieuse déception. Et des fois, je me dis, les circonstances comme la prison, heureusement, on n'a jamais connu ça, c'est douloureux, mais les circonstances où on est rejeté, les circonstances où ceux qu'on aime, auxquels on tient, vous font du mal, vous lâchent. Franchement, c'est vraiment douloureux. Quelle est l'attitude à avoir? Mais ce qui me frappe vraiment dans ce verset, c'est que toutes ces choses-là, Paul, il n'insiste pas. Il ne fait pas tout pour les changer. Il discute un peu plus tard, est-ce que je dois rester en prison, quitter de prison, finalement, que je meure ou que je vive, c'est Christ. Ces circonstances-là, clairement, si douloureuses qu'elles soient, elles ne sont pas au cœur. Il les accueille. Qu'est-ce qu'il oublie? Il oublie ces circonstances. Il ne les met pas au premier plan. Ce n'est pas là-dessus qu'il va se battre. Et je trouve que ça se résume bien dans une phrase qu'on peut dire, il renonce à contrôler. Il renonce à contrôler les situations. Ce n'est pas là le point. Oublier les choses qui sont derrière, oublier ces choses-là, ce n'est pas les nier, mais c'est renoncer à les contrôler. Et franchement, notre tentation quand ça ne va pas bien, eh bien, c'est de contrôler. On va tout faire pour sortir de ces situations. Eh bien, le secret de Paul, ici, c'est « je renonce à contrôler ». Ben, c'est une liberté, parce que non seulement je renonce à contrôler, mais ce que ça veut dire, c'est « je n'ai pas besoin de contrôler ». C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « libre ». On n'a pas besoin de contrôler. Ce n'est pas nécessaire. chercher à contrôler les situations, non, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce qui fait que Paul il peut renoncer? On le voit clairement. Ce qui le motive, ce qui est dans son cœur toujours, c'est l'évangile. C'est l'évangile de Christ, c'est manifester Christ. Il est content, pas à cause de ce qui se passe, mais parce qu'il voit que le plan de Dieu s'accomplit. Il est tellement émerveillé par Dieu, par ce qu'il fait, que le reste perd son importance. Il tend vers ces choses. Ouais, la seule chose qui soit vraiment importante pour lui, c'est le plan de Dieu. Et pourquoi il peut dire ça? Parce qu'il aime Dieu. Pourquoi il aime Dieu? Ben parce que le Saint-Esprit met l'amour de Dieu dans son cœur, comme le Saint-Esprit met l'amour de Dieu dans notre cœur. C'est possible parce que cet amour de Dieu, on l'a reçu, il est là. Alors c'est un combat, c'est pas facile de dire je renonce à contrôler, mais si on a la vie de Dieu, on peut le faire. Et comment ça se fait? Juste la suite de ce passage, Paul il dit « Car je sais que cela aboutira à mon salut, toutes ces choses, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Ma pleine assurance, je sais, la foi dans la souveraineté de Dieu. » On l'a chanté ce matin plusieurs fois, Dieu est en contrôle, il est tout puissant. Si on croit ça, si on est sûr que Dieu contrôle toute chose et que ce n'est pas simplement des mots, mais quelque chose qui est à l'intérieur de nous, eh bien, en effet, on n'a pas besoin de contrôler. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Il y a des difficultés, la vie n'est pas facile, vous n'avez pas besoin de contrôler ça. Il y a autre chose à chercher et cela vous sera donné. Vous pourrez le vivre à cause de la vie de Dieu qui est en chacun de nous. Deuxième chapitre, je vous ai dit, l'obstacle, la difficulté contre laquelle Paul, de laquelle Paul parle, c'est la nature humaine et notre égocentrisme. Philippiens 2, versets 3 à 5, il dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Il y a une certaine manière, ce passage, il est choquant parce que ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. C'est quand même les choses qu'on recherche. Le moteur de notre société, la rivalité, la performance, dépasser, aller au-delà. Et puis le désir d'une gloire sans valeur, oui, on a un profond désir d'être apprécié, admiré, connu, compris. Et tout ceci conduit notre vie à faire quoi? Je dirais à conduire notre vie à contrôler les autres. À faire dans nos actions envers les autres tout ce qu'il faut pour que ces autres personnes elles fassent ce dont on a envie, elles nous rendent ce dont on a besoin. Et ça peut être très subtil. On peut faire des choses qui semblent très généreuses, mais finalement ce qui est important, c'est le fruit qu'on en reçoit. Je préparais ce message ce matin ou hier soir. Je me disais, mais finalement, je ne suis pas super satisfait de ce que je vais dire. Ça, mais qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je paraisse brillant, prédicateur top devant vous? Ou est-ce que simplement j'ai envie de parler ce que Dieu donne? Est-ce que je recherche moi ou Dieu? Vous voyez, c'est des fois subtil quand même. Mais la nature humaine, elle est comme ça. Elle cherche toujours à son propre intérêt. Elle cherche à contrôler les autres. Par exemple, vous parlez en bien pour que j'en retire quelque chose. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'insister beaucoup parce que je pense que c'est assez évident pour chacun. chose à oublier, chose à mettre de côté, donc renoncer à tout orienter pour mon avantage, renoncer à tout arranger pour les autres, renoncer finalement à contrôler les autres. Et là aussi, c'est une liberté, parce que renoncer à contrôler les autres, c'est une chose, mais n'avoir pas besoin de contrôler les autres, ça, c'est une autre chose. Est-ce que Dieu veut nous donner les ressources pour n'avoir pas besoin de contrôler les autres, mais pour pouvoir servir les autres? Et pas pour recevoir un retour parce que j'ai rendu service, mais de cœur. Mais ça correspond à renoncer, à oublier, à ne pas vouloir, à choisir de ne pas contrôler les autres. Deux ressources pour ça. J'abrège, hein, tu remarqueras, j'essaye d'être court. Elle m'a bien recommandé d'être court. Hein, donc. Il y a deux ressources pour ça. Ouais. Il y a deux ressources. Hein. Philippiens 2, 13. En effet, nous dit Paul juste après ça, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Mon choix est de renoncer à contrôler les autres. Et vraiment, c'est un choix à faire, mais c'est possible parce que ce choix, il vient de Dieu. Il met dans mon cœur de vouloir le faire, il ouvre mes yeux pour que je réalise que c'est faux de faire ça, et je vais le choisir, mais il met le vouloir, mais aussi le faire, la capacité de le faire. On peut le faire. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. C'est pour ça que ça nous semble des fois difficile. Parce qu'on ne prend pas conscience de ça, et on cherche quand même de façon assez profonde, je trouve, toujours à contrôler les autres. Mais ce qui nous est demandé, ce qui nous est offert, parce que c'est un cadeau, cette liberté, eh bien, c'est de n'avoir pas besoin de contrôler les autres. Ni mon épouse, ni mes enfants. Je l'ai élevé, il y a toute une dynamique, c'est autre chose. Mais renoncer à contrôler. Et comment le faire? Alors, Suzy a cité ce verset, je vais le reprendre. Quel est le but? Qu'est-ce qu'on doit être? Vers quoi on doit aller? Qu'est-ce que veut Dieu en nous disant renoncer à contrôler? Il nous dit, faites tout cela afin d'être irréprochable, pur, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, portant la parole de vie. Je pourrais alors être glorieux le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé en vain. Il y a d'abord un but. Quel est le but de Jésus? Juste après ce qu'on a lu, il y a toujours ce passage célèbre où Jésus n'a pas regardé comme une rapine d'être égal à Dieu, mais c'est anéanti. Il y a tout ce chemin qui se termine. Pourquoi Jésus suit ce chemin? Eh bien, pour être élevé, pour être glorieux, pour atteindre le but, afin qu'au nom de Jésus, tout genou se ploie, etc. C'est pour monter. Vers quoi? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce que Dieu met devant nous? Ben, quand même la même chose. Je pourrais être glorieux le jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain. Ces choses-là, ce renoncement à contrôler, ça honore Dieu. Quand je sers les autres, ça honore Dieu et j'en ai une récompense. Ça honore Dieu et ça aura des fruits éternels. Simplement, une fois de ne renoncer à imposer quelque chose à Suzy, ça ne m'arrive pas souvent d'imposer, mais de le réaliser de cette manière-là, eh bien, c'est quelque chose qui a des fruits dans l'éternité. Ça, c'est un peu de choses, des fois, de renoncer à contrôler, mais ça a un impact éternel. Et Dieu, il ne mesure pas du tout les choses comme nous. Les choses qui nous semblent grandes sont secondaires pour Dieu. Des choses qui nous semblent très petites, comme celles-ci, elles sont absolument fondamentales. Et l'avenir éternel, les nouveaux cieux et la nouvelle terre dépendent de ce genre d'attitude. Mais comment le faire? Comment être irréprochable, pur, sans défaut, au milieu de cette génération difficile? Comment luire? Eh bien, ce que Sylvia a dit, il dit... Il dit simplement, faites toutes choses sans murmure ni contestation. Vous voulez être irréprochable, vous voulez être sans défaut au milieu de ce monde, eh bien, faites tout sans murmure et sans contestation. On disait que ces trois dames, ce qui nous frappe, c'est justement ça. Elles sont satisfaites, elles ont appris. Eh bien, c'est une clé, c'est finalement quand même de ça, alors pas uniquement, mais quand même une bonne partie de ça, que dépend le fait qu'on est fructueux. Est-ce que, dans mon attitude intérieure, parce que je connais Dieu, parce que j'ai cette liberté et cette joie, est-ce que je peux faire les choses sans grogner et sans contester? C'est pas très difficile d'identifier dans nos vies quand on grogne ou on conteste, et ça nous arrive. Eh bien, c'est vraiment une clé. Faites toutes choses sans grogner, sans contester. Ça veut dire s'oublier soi-même, ça veut dire renoncer à contrôler les autres aussi. Le dernier, c'est au chapitre 3 cette fois, dernier obstacle, la dernière liberté qu'on a gagnée, c'est notre incompréhension de Dieu, que Paul va traiter dans le chapitre 3. Je vous lis les versets 2 à 8. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Et pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux encore plus. J'ai été circoncis le huitième jour, je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je considère même toutes choses comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Mauvaise conception de Dieu, ce qu'on appelle habituellement le légalisme. Quand on entend ça, on dit, ah ben oui, les judaïsants, c'est des légalistes. Mais ça veut dire quoi être légaliste? En fait, ça veut dire, si je fais quelque chose, alors Dieu va faire la chose promise. Si je fais ça, j'aurai ça. Si je ne fais pas ça, j'aurai pas ça. Et le légalisme, c'est un autre mot pour dire une manière de contrôler Dieu. C'est rien d'autre, c'est une façon de contrôler Dieu. On contrôle notre situation, on contrôle notre prochain, mais on contrôle aussi Dieu par nos mérites, par de multiples manières. Et c'est là aussi, je dirais, c'est des fois subtil parce qu'on sait tous qu'on ne doit pas être légaliste, ça c'est une évidence. Mais on a des fois des manières de prier qui contrôlent Dieu. On a des manières d'agir, de servir, qui sont des manières de dire à Dieu, ok. Oui, j'ai bien fait. Et puis on a des manières de dire, mais je fais mal, c'est faux. Eh bien, on a tendance à attendre la punition de Dieu. On cherche toujours à contrôler Dieu. Alors y renoncer, mais c'est le plus grand cadeau qu'on puisse recevoir. Je n'ai pas besoin de contrôler Dieu. Il est pour moi, déjà, par défaut. Quoi que je fasse, quoi que je sois, il m'a choisi. Je n'ai pas besoin de le contrôler. Et c'est très important de réaliser, je dirais, on ne doit pas contrôler Dieu. Pas le contrôler parce qu'il est souverain. Pas le contrôler parce qu'il sait beaucoup mieux que nous ce dont on a besoin. Pas le contrôler parce qu'il est simplement bon et juste. Comment le faire ou je sais pas trop comment dire ça, mais je prends juste la suite ensuite. Chapitre toujours 3, les versets 8 et 9. Je considère toute chose comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Le but, c'est de connaître Jésus. Le but, c'est de connaître Dieu. Et tout ceci contribue à connaître Dieu. Et pourquoi ce qui est important, c'est de recevoir les choses. notre vie, notre salut, on l'a reçu de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. On en est tous conscients. Même si on sait qu'on a choisi Dieu, ben on sait qu'il nous avait d'abord choisi lui. Sans ça, on ne serait jamais tourné vers lui. Mais ça, c'est, je dirais, évident quand on a vraiment rencontré Dieu. Mais c'est plus profond que ça. C'est vrai de toute notre vie, de chaque chose dans notre vie. Plus qui a tout à l'heure à parler de... c'est Corinne, je pense, qui a dit ça dans sa prière ou dans un commentaire. Le fait que tous les détails de notre vie, les petites choses, appartiennent à Dieu. Et c'est important de ne pas les obtenir de Dieu. Croire qu'elles nous sont données. Il y a un besoin profond de comprendre et de saisir cette souveraineté d'un Dieu qui est généreux et qui donne. Et que toutes choses, elles ne sont pas liées tellement à mes performances, à qui je suis, elles sont un cadeau gratuit de Dieu. Et c'est comme ça qu'on connaît vraiment Dieu. Parce que Dieu est essentiellement, profondément, un Dieu qui donne. Il est tout, il est centré sur lui-même, si on veut, dans un certain sens, mais dans un certain sens, il est totalement centré sur l'autre. Le Père donne tout au Fils, le Fils donne tout au Père. Le Saint-Esprit n'a qu'un désir, c'est d'honorer le Père et le Fils. Il y a un mouvement de don, de cadeau. Et c'est là-dedans que Dieu veut nous introduire. Ce qui fait que, comment dire, manipuler Dieu, contrôler Dieu, c'est finalement perdre une des choses les plus précieuses qui existent. C'est le fait que Dieu donne gratuitement. Comme il a donné Jésus gratuitement, on ne méritait rien, mais tout ce qu'il vous donne, la santé ou la maladie, ou toutes ces choses par lesquelles vous passez, finalement, d'une manière ou d'une autre, ça, c'est quelque chose qui vient de Dieu. On dépend à 100% de Dieu. Tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a, finalement, d'une manière ou d'une autre, des fois indirectement, mais ça provient de Dieu. Et c'est ça, connaître Dieu. Connaître Jésus, c'est de réaliser que tout vient de lui. Et c'est le but ultime de notre vie. Si on passe là à côté, on passe à côté d'une des choses les plus essentielles. C'est pour ça que Paul insiste tellement contre le légalisme. Mais non, on ne contrôle pas Dieu, on reçoit de Dieu. Et puis Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est une autre manière de dire la même chose. Mais si on ne peut rien faire, eh bien, on peut recevoir. Et Dieu est un Dieu qui reçoit. Et on a notre responsabilité, on a à accueillir ces choses, on a à renoncer à manipuler. C'est notre choix. Mais finalement, tout est donné et c'est ce qu'on peut comprendre et saisir de plus important. On appréciera Dieu, on louera Dieu, on le connaîtra. Plus on réalise que c'est grâce et cadeau. Donc j'ai intitulé ce message « Libre » parce que je crois que c'est vraiment des espaces immenses de liberté qui nous sont donnés en oubliant de contrôler les situations, en oubliant de contrôler les autres, en oubliant surtout de contrôler notre Dieu. Mais Seigneur, je te prie pour que ces choses soient réelles. Heureusement, tu as promis que tu mets en nous et le vouloir et le faire, et on compte sur toi, Seigneur. Il y a une impossibilité sans toi de vivre quoi que ce soit de ces choses, mais c'est possible avec toi. Alors, mets-nous d'accord avec toi, s'il te plaît, pour qu'on aille dans la bonne direction, pour qu'on apprenne ces choses, qu'on grandisse dans ces choses, et qu'on puisse arriver à la fin de notre vie avec quelque chose de ces personnes qui ont vécu avec toi et qui montre quelque chose de toi. Eh bien, aide-nous à montrer quelque chose de toi, Seigneur Jésus. Amen.